écoutez Le Chantier à Clermont-Ferrand sur 98 FM ou sur lechantier.radio.
Depuis quelques mois, on voit apparaître un mouvement contestataire à l'encontre du monde du travail. Ce phénomène originaire des États-Unis a notamment explosé sur les réseaux sociaux. Après des vagues de démissions, parfois mises en scène de façon spectaculaire sur Internet, est apparu le « quiet quitting », la démission silencieuse. Il s'agit ici de refuser toute forme de zèle, et donc de ne faire que les tâches figurant sur notre fiche de poste, et ce uniquement durant les heures de travail. Afin d'explorer plus en détail les tenants et aboutissants de ce mouvement, nous accueillons aujourd'hui Sophie Caruel. Sophie Caruel, bonjour et bienvenue sur Le Chantier.
Bonjour Moïse.
Alors vous avez été consultante auprès de nombreuses entreprises et associations et êtes aujourd'hui formatrice et rédactrice. Vous êtes également l'autrice du livre « Pour quel monde travailler ? Rendre visible l'invisible » dans lequel vous questionnez le sens du monde du travail actuel. Donc Sophie Caruel, qui sont ces « quiet quitters » ? Est-ce qu'il y a des tranches de population qui sont plus actives dans ce mouvement ou des secteurs professionnels plus touchés, plus propices à cette démarche ?
C'est un phénomène qui existe depuis toujours en fait. Vous l'avez bien décrit, c'est le fait de remplir ses fonctions mais tout en ralentissant son rythme de travail pour préserver sa santé mentale. Donc c'est quelque chose qui existe à tous les niveaux générationnels et pas uniquement au niveau des jeunes. L'objectif, c'est d'arrêter de se vouer corps et âme à son travail. Donc on fait, comme vous l'avez dit, uniquement ce qui est écrit sur sa fiche de poste. Il y a une volonté de plus aller au-delà de ce qui est attendu dans l'espoir d'une potentielle prime, d'une augmentation ou d'une évolution qui finalement n'arrive peut-être pas. Ce phénomène, il touche toutes les personnes qui sont désenchantées par rapport au contrat psychologique qu'elles ont passé avec leur entreprise, c'est-à-dire toutes les promesses qui n'ont pas été tenues finalement par l'employeur, que ce soit en termes d'évolution, de mobilité, de reconnaissance du travail effectué, ou tout simplement de bien-être et d'ambiance au travail. Donc on peut avoir du quiet quitting à la fois chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les seniors. C'est un phénomène dont on a fortement entendu parler en 2022 et encore sûrement cette année en 2023, puisqu'effectivement il y a eu une grosse vague de quiet quitting aux États-Unis où la culture du surtravail est bien plus importante que chez nous, où les personnes ont assez peu de congés payés et ne les prennent pas forcément. Et ce phénomène a été largement relayé par les médias. On en a beaucoup parlé effectivement en France à travers les réseaux sociaux parce que les jeunes ont intégré une sphère professionnelle dans un monde finalement assez fatigué et assez turbulent.
Justement, ce terme de quiet quitting, comme vous dites, est revenu au goût du jour il y a peu et la tendance semble avoir explosé suite à la période post-confinement, malgré que le mouvement soit récent. À votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a accéléré ce mouvement ?
Comme vous le dites, il y a l'effet post-Covid. C'est vraiment la conséquence de la crise sanitaire des 2 ans de Covid qui ont bouleversé le rapport des Français au travail. On avait dans l'idée que le monde d'après serait différent et puis finalement il ne l'est pas du tout ou pas vraiment. Donc les contraintes de la vie en entreprise sont beaucoup moins tolérées. Les DRH nous indiquent que les candidats de la période post-Covid expriment de nouvelles attentes. Donc, ils demandent plus de flexibilité sur les lieux où se passe le travail, plus de personnalisation dans l'organisation du travail. Et il y a vraiment de la part des salariés une volonté de rééquilibrer la place qu'ils donnent au travail et au temps qu'ils lui consacrent.
Alors, vous avez évoqué le contrat social dans l'entreprise qui ne paraît plus respecté par les personnes pratiquant le quiet quitting, et notamment vous évoquez aux États-Unis cette culture du surtravail. Alors on pourrait rétorquer qu'en France c'est différent, nous avons des congés payés, nous avons un système un peu plus avantageux, et pourtant ce mouvement a eu du succès. Donc à votre avis, de quelle manière ce contrat social n'est pas respecté non plus par chez nous ?
Je pense qu'il y a une insatisfaction plus globale quant à l'expérience salariale en France. Il est vraiment associé à des horaires fixes, à un management plus ou moins efficace, plus ou moins directif. Et les gens veulent tout simplement plus de simplicité, de fluidité dans leur organisation, dans leurs relations de travail, dans leurs horaires. Ils n'ont plus envie de concevoir le travail comme quelque chose d'aliénant en fait, mais plutôt comme une activité où ils ont l'occasion d'apprendre, de développer leurs compétences, de proposer leurs idées, et le tout, si possible, dans une bonne ambiance. Certains sociologues, effectivement, ou chercheurs, ou professionnels, partent d'une remise en question du contrat ou du pacte social et moral proposé par les entreprises et le monde du travail en général. C'est-à-dire que les gens veulent vivre leur vie et non plus passer leur temps à la gagner. Hein. Mais c'est pas un constat générationnel, vraiment plutôt l'évolution de la société en fait. On n'est pas non plus dans la perte de la valeur travail, c'est pas la valeur travail qui est remise en question, mais c'est vraiment la forme du travail et la place que celui-ci occupe dans nos vies. Donc les salariés mettent maintenant des limites pour tout simplement mieux vivre. Et puis ils remodèlent d'ailleurs, on le voit progressivement, les notions de réussite ou d'ambition.
Je me pose en effet la question, est-ce que ce mouvement ne serait pas révélateur également de dysfonctionnement au sein même de la société, donc au-delà du monde de l'entreprise ?
Tout à fait. Il y a une crise de sens beaucoup plus globale. Ça c'est certain. Pour en revenir à la jeune génération, mais même aux générations suivantes, il est certain que les jeunes questionnent dorénavant et plus qu'avant le sens et la finalité de leur travail par rapport à la crise écologique par exemple. Ils établissent maintenant le lien entre les activités humaines et donc économiques et le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution de l'environnement. Donc clairement, ils voient les limites du système actuel. Hein. S'il faut travailler plus pour consommer plus, pour finalement polluer plus, est-ce que cela a encore du sens ? Je dirais aussi qu'il y a un mal-être ambiant, mais qui a lieu depuis, qui a pris place depuis plusieurs décennies. On est dans un contexte assez anxiogène, avec quand même 38% des actifs qui sont en détresse psychologique au travail. En tout cas, à la sortie du Covid en 2022, donc c'est énorme. On est qu'il y a 13% des actifs qui sont réellement en burn-out. Donc les plus touchés sont les jeunes, les femmes et les managers. Hein, pour rappeler ce que c'est le burn-out, c'est vraiment l'épuisement professionnel, donc avec une fatigue intense, un stress chronique qui s'installe, un surmenage, le sentiment d'être dépassé. Et comme vous l'avez dit, tout cela est tout simplement lié au productivisme de notre société. Hein. On est dans un système qui accélère en permanence. Et puis les grands perdants de cette accélération sont bien sûr les employés, toutes générations confondues. Ils doivent travailler à un rythme relativement effréné, beaucoup plus intense, avec des changements permanents pour produire toujours plus de PIB, coûte que coûte. Donc le prix aujourd'hui, effectivement, c'est la santé des salariés, mais aussi l'état de l'environnement.
Sophie Caruel, à votre avis, pourquoi les jeunes semblent se diriger plus volontiers vers cette forme de protestation-là, le quiet quitting, la démission silencieuse, plutôt que d'employer une forme un peu plus traditionnelle, comme la syndicalisation, la grève ou la manifestation ?
Je pense qu'en fait, il y a vraiment une volonté de replacer, redonner au travail une place différente. Hein, donc, il y a de manière générale une volonté d'autonomie, de moins de subordination, moins de surveillance, mais aussi le désir de donner du sens à son activité. Donc c'est pas une remise en question du travail. On n'a pas forcément envie. Le terme de démission, finalement, démission silencieuse, n'est pas correct parce que les jeunes n'ont pas forcément envie de démissionner. Ils aiment toujours travailler. Ils aiment leur métier, mais ils veulent choisir pour qui ils vont travailler, pour des entreprises qui ont notamment pris la mesure des enjeux, qui ne font pas de greenwashing, qui respectent leurs employés et qui sont vraiment à l'écoute de leurs besoins. Donc c'est plutôt un appel à l'aide, en fait, hein, lorsqu'on a des employés en quiet quitting. Ils veulent tout simplement être écoutés, se faire entendre, faire entendre leurs besoins et leurs aspirations.
On peut lire ici et là que certaines entreprises s'inquiètent de ce type de mouvement. Alors à votre avis, est-ce que ça a un impact réel sur des entreprises, sur l'économie ? Est-ce que c'est seulement mesurable ?
Il est difficile à mesurer, bien sûr. Mais en tout cas, dans les études qui ont été qui sont sorties en 2022, on a pu voir qu'il n'y avait pas forcément un mouvement massif en France, hein, pas plus que d'habitude. Mais qui a été largement relayé par les réseaux sociaux, parce qu'il y a une envie forcément de se rallier à ce mouvement, de montrer qu'on n'est pas forcément satisfait de son environnement de travail et de la façon dont le salariat s'est mis en place. On le mesure notamment par rapport à d'autres activités qui sont en émergence, par exemple le nombre de créations de micro-entreprises. Donc on a des employés qui, eux, pour le coup, ont décidé de démissionner, de se reconvertir. Et la création de micro-entreprises est à un niveau des plus importants chez les jeunes, notamment. Donc il y a d'autres voies qui émergent en réponse à ce salariat qui ne fait pas forcément rêver ou qui ne donne plus d'opportunités. Mais on a aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, de différentes aspirations. Je pense qu'il faut pas, on ne peut pas mettre tous les jeunes dans le même panier, c'est-à-dire que le rapport de la jeunesse au travail n'est pas homogène. Il y a vraiment des disparités. On a effectivement une partie de la population des jeunes qui est intéressée, enfin qui se rallie à ce mouvement de quiet quitting. Mais il y a aussi une partie des jeunes qui cherchent à sécuriser son parcours d'emploi, parce qu'il ne faut pas oublier que le taux de chômage reste très élevé chez les jeunes. Hein. Il est quand même à 18% chez les 15-24 ans en 2022, contre 6 ou 7% de chômeurs hein, dans la population générale. Donc il y a quand même de réelles difficultés d'insertion dans une partie de la jeunesse, qui sont notamment liées à un décalage entre les formations, les filières prisées, et les postes qui sont disponibles sur le marché. Il y a par ailleurs des jeunes qui n'ont pas de qualification et qui, eux, cherchent le CDI, voilà, hein, qui sont vraiment intéressés par la stabilité. C'est pas un mouvement général hein, qui touche l'ensemble des jeunes. Il y a vraiment des disparités, comme au sein de toute la population active.
Une dernière question que j'aimerais vous poser, Sophie Caruel, c'est quelle solution pourrait être envisagée pour améliorer cette situation ?
Écoutez, je pense qu'on revient à ce dont on parlait au tout début, c'est tout simplement l'écoute du contrat psychologique. C'est le contrat implicite, en fait, qui se met en place entre un employé et son employeur dès le début de la relation de travail, voire même avant, lors du processus de recrutement. C'est un contrat qui n'est pas écrit, mais qui laisse transparaître en fait toutes les attentes du salarié. On a aujourd'hui des employeurs et des managers qui sont assez déstabilisés effectivement par ce phénomène, en tout cas par la médiatisation de ce phénomène, et notamment par le fait que les jeunes semblent plus facilement prêts à quitter leur emploi lorsqu'ils ne sont plus satisfaits. Donc on a vraiment un rapport de force qui commence à se rééquilibrer, à changer légèrement. Les valeurs traditionnelles de réussite, de loyauté, de flexibilité demandées aux employés qui tombent un petit peu à l'eau. Les notions de progression hiérarchique, de réussite, de responsabilité, de rémunération qui ne font plus forcément rêver. Donc il y a beaucoup de choses à reconstruire au niveau des employeurs, de la gestion des ressources humaines. Et notamment, tout simplement, hein, comme je vous le disais, dans la simple expérience du recrutement, qui est pour l'instant perçue encore comme quelque chose d'assez complexe, fastidieux par les jeunes et par les candidats de manière générale. Et c'est pourtant à ce moment-là, en fait, hein, que se met en place le point de départ du contrat psychologique, où les jeunes devraient pouvoir avoir la possibilité d'échanger sur ce qu'ils sont vraiment, sur leur unicité, sur le talent qu'ils ont envie d'apporter, sur ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, et non plus expliquer simplement leur parcours, leurs forces, leurs faiblesses, pourquoi ils ont bifurqué, pourquoi il y a un trou dans leur CV, etc. Aujourd'hui, on a un employé sur cinq qui quitte l'entreprise avant les 18 premiers mois, donc au cours de la période d'essai ou juste après. Et donc, c'est bien qu'il y a eu, un problème, une non-écoute du contrat psychologique et de demande des besoins des employés à la base.
Merci Sophie Caruel pour toutes vos réponses. Je rappelle que vous êtes l'autrice du livre « Pour quel monde travailler ? Rendre visible l'invisible ».
Je vous remercie Moïse.
Et à vous qui nous écoutez, je vous souhaite une excellente journée et une bonne écoute sur le chantier.
Chaque jour, la rédaction du chantier décrypte un phénomène d'actualité avec un nouvel invité. L'invité de la rédaction. À retrouver tous les jours à 8h15 et 12h15 sur le chantier et à réécouter sur lechantier.radio.